Donc bonsoir à tous. Je voudrais commencer cet exposé par remerciant Françoise de m'avoir invité. Alors Françoise, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur l'inflation. Donc il y aura quelques répétitions, mais j'espère que la façon dont je vais expliquer l'inflation avec un langage un peu différent vous permettra d'avoir un éclairage différent sur l'inflation et donc de mieux comprendre. Et en plus, je vais essayer de me concentrer sur un aspect particulier, à savoir comment on peut utiliser les données astrophysiques, et en particulier celles de Planck, pour essayer de contraindre la théorie de l'inflation. Alors, j'ai organisé l'exposé de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'est la théorie de l'inflation, donc ça sera très bref. Et de toute façon, Françoise vous a expliqué en détail ce qu'était l'inflation. Et puis, dans un deuxième temps, je vais essayer d'expliquer comment on peut réaliser une phase d'inflation, quel postulat physique il faut admettre pour pouvoir réaliser cette phase d'inflation. Et puis, dans un troisième temps, je discuterai le point le plus important, à savoir une partie de la théorie de l'inflation qui est celle qui explique l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. On verra que la théorie de l'inflation nous donne une explication pour l'origine de ces grandes structures. Et puis finalement, dans la dernière partie, je montrerai comment, à partir des données de Planck et à partir des données sur les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond, on peut essayer de contraindre l'inflation et d'apprendre quelque chose sur l'inflation. Alors commençons par le premier point, qu'est-ce que la théorie de l'inflation? Eh bien comme Françoise l'a expliqué, l'inflation c'est une phase d'expansion accélérée et exponentielle ayant eu lieu dans l'univers primordial à de très hautes énergies. Donc vous avez ici une représentation un peu imagée de l'histoire de l'univers. Nous sommes ici c'est le Big Bang, nous sommes ici à peu près 14 milliards d'années après le Big Bang, et vous voyez que cette partie ici, c'est le modèle standard de la cosmologie, qu'on appelle le modèle du Big Bang Show, qui est un modèle extrêmement efficace, qui explique la plupart des données que nous avons. Et l'inflation correspond donc à une période très courte qui a eu lieu proche du Big Bang et avant la phase standard du modèle du Big Bang Show. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'inflation, ce n'est pas quelque chose qui remplace le modèle standard de la cosmologie, mais c'est plutôt quelque chose qui complète ce modèle standard de la cosmologie. C'est quelque chose qui va faire mieux marcher le modèle standard de la cosmologie. Alors, ici, nous avons un diagramme qui représente le facteur d'échelle en fonction du temps. Donc le facteur d'échelle, c'est une fonction qui vous décrit la façon dont l'univers s'étend. Donc si vous prenez deux objets dans l'univers, leur distance va croître avec le temps simplement parce que l'univers s'étend, et la façon dont cette distance va croître avec le temps est exprimée par le facteur d'échelle. Et alors vous voyez que vous avez deux phases. Disons la phase ici qui apparaît relativement douce, c'est la phase correspondant au modèle standard où l'expansion de l'univers est décélérée. Et on comprend bien pourquoi elle est décélérée, c'est parce que la force de gravité est une force attractive, c'est-à-dire vous avez une espèce de pinch initial qui est le Big Bang, qui lance l'expansion, et puis puisque la force de gravité est attractive, elle va avoir tendance à ralentir cette expansion initiale. Et c'est la raison pour laquelle l'accélération du facteur d'échelle, donc la dérivée seconde du facteur d'échelle par rapport au temps, est négative. Et vous voyez que la phase d'inflation qui est représentée en bleu ici est bien différente. D'abord, elle n'est pas très douce, elle est même très violente, elle dure très peu de temps, mais la croissance du facteur d'échelle y est très importante. En fait, elle est exponentielle. Et puis, une autre caractéristique qui est très importante, c'est que cette phase d'expansion exponentielle est accélérée. Alors pour ça, on verra qu'on a besoin, pour la produire, de faire appel au principe fondamentaux de la relativité générale, et c'est ce que je vais discuter dans la suite. Alors, il y a une quantité de base qu'on aimerait connaître immédiatement, c'est l'échelle d'énergie à laquelle cette phase d'inflation a eu lieu. Malheureusement, on ne connaît pas bien cette quantité, on a simplement un intervalle de valeurs possibles, et cet intervalle, il est très grand. Alors, on sait que l'échelle d'énergie de l'inflation, on sait que l'inflation a eu lieu avant l'échelle de grande unification, et ça, je vous expliquerai explicitement comment on peut obtenir cette conclusion à partir des données astrophysiques. Et puis, on sait qu'elle a eu lieu avant la nucléosynthèse, parce qu'on ne veut pas modifier les succès de la nucléosynthèse, et avoir une phase d'inflation pendant la nucléosynthèse, ça serait une catastrophe. Donc, on sait que l'inflation doit avoir eu lieu avant la nucléosynthèse. Et donc, ça nous laisse avec cet intervalle de valeur, qui est un intervalle de valeur très grand, malheureusement. Alors, avoir une contrainte sur l'énergie, l'échelle d'énergie de l'inflation, c'est aussi avoir une contrainte sur le taux d'expansion de l'univers, parce que les deux sont reliés par l'équation de Friedmann. Donc, le taux d'expansion de l'univers, c'est juste le rapport de la dérivée de A sur A. Et cette quantité, donc, enfin son carré, est directement la densité d'énergie présente dans l'univers. Et comme on ne connaît pas celle-ci pendant l'inflation, on ne connaît pas non plus le taux d'expansion pendant l'inflation. C'est pourtant la quantité principale à laquelle on voudrait avoir accès. Dès qu'on a un phénomène physique, on aimerait savoir à quelle échelle d'énergie on a affaire. Alors, pour quelles raisons on introduit la théorie de l'inflation? Françoise vous a expliqué en détail les raisons pour lesquelles on introduit ou on postule la présence d'une phase d'inflation dans l'univers très primordial, donc je ne vais pas y revenir, mais je vais juste essayer de faire la liste de certains des problèmes que l'inflation résout. Il y a le problème de la platitude, donc pourquoi l'univers apparaît spatialement plat aujourd'hui? Dans le cadre du modèle standard de la cosmologie, ça paraît un peu mystérieux. L'inflation résout ce problème. Il y a le problème de l'horizon, donc c'est ce que Françoise a montré, le calcul de la taille de l'horizon causal. Dans le modèle du Big Bang Show, on ne comprend pas bien l'homogénéité du rayonnement cosmologique de fond. L'inflation nous permet de résoudre ce problème. Et puis évidemment, il y a d'autres problèmes dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais il y a aussi le problème de l'origine des galaxies et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. Alors ça, c'est vraiment une question très importante, et comme je l'ai indiqué au début de l'exposé, c'est une des questions que je vais discuter le plus en détail. Donc vous voyez que toutes ces questions, en fait, elles sont liées aux conditions initiales du modèle standard de la cosmologie. Donc ce n'est pas que le modèle standard de la cosmologie est en contradiction avec les observations, pas du tout, au contraire, c'est un modèle extrêmement efficace pour rendre compte de toutes les observations astrophysiques que nous avons à notre disposition, mais c'est simplement que les conditions initiales dont nous avons besoin pour bien faire marcher ce modèle standard de la cosmologie, sans l'inflation, elles nous apparaissent un peu artificielles. Or, vous comprenez bien que puisque l'inflation est une période, une époque qui a lieu avant le début du modèle standard de la cosmologie, en fait, les conditions initiales de ce modèle standard sont en fait les conditions finales de l'inflation. Et en fait, l'inflation, vous pouvez voir ça comme comme un mécanisme théorique qui nous fournit les bonnes conditions initiales pour bien faire marcher le modèle standard de la cosmologie. Donc on peut dire en fait que l'inflation, c'est le mécanisme théorique qui met le modèle standard de la cosmologie sur de bons rails pour bien fonctionner. Alors, après cette brève introduction sur ce qu'est la théorie de l'inflation, je vais maintenant discuter comment on peut réaliser une telle phase d'inflation. Alors, donc la force qui domine et qui contrôle l'évolution de l'univers, c'est la force de gravité. Donc si on veut comprendre l'évolution de l'univers, il faut qu'on comprenne la gravité. Et la théorie la plus moderne et la plus efficace qu'on ait du champ gravitationnel, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc ça veut dire que l'évolution de l'univers, son expansion, vont être contrôlées par les équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein, elles nous disent quoi ? Elles nous disent que la géométrie de l'univers est contrôlée par la distribution de matière et d'énergie qu'il y a dans l'univers. Donc la géométrie est égale à la matière. Et puis il y a des constantes entre les deux, et ces constantes, c'est G, la constante de gravitation universelle, et C, la vitesse de la lumière, et ça c'est normal, parce que la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, donc il y a G, et c'est une théorie relativiste de la gravitation, donc il y a C aussi. Alors si vous appliquez ces équations d'Einstein à la cosmologie, à un univers qui est homogène et isotrope sur les grandes échelles, la théorie vous donne une équation qui contrôle l'accélération du facteur d'échelle. Or, on a vu tout à l'heure que l'accélération du facteur d'échelle, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre l'inflation. Et alors, que nous disent les équations d'Einstein ? Elles nous disent que l'accélération du facteur d'échelle, c'est en gros donné par moins, et le moins ici est très important, moins fois moins rho plus 3p, où rho c'est la densité d'énergie du fluide qui domine dans l'univers, et p sa pression. Comme la densité d'énergie ou l'énergie est une quantité positive, si on veut avoir une accélération positive, à cause du moins qu'il y a ici, ben, on n'a pas le choix, il nous faut un terme de pression qui soit négatif et qui domine. Donc ça, ça veut nous dire... je vais dans le mauvais sens. Excusez-moi. Voilà. Ça nous dit que la pression du fluide qui domine dans l'univers pendant l'inflation, cette pression doit être négative. Alors ça, déjà, c'est quelque chose d'un peu étrange. Parce que si vous prenez la théorie usuelle, disons un gaz usuel, le gaz dans une roue de bicyclette par exemple, sa pression est positive. Or ici, il nous faut une pression négative. Donc comment peut-on avoir une pression négative ? Alors ici, il faut se rappeler que l'inflation, c'est une phase qui a lieu dans l'univers très primordial, aux très hautes énergies, comme je l'ai dit au départ. Donc à ces échelles d'énergie, la théorie cinétique des gaz ou la théorie des gaz n'est certainement pas la bonne description de la matière. On sait que la bonne description de la matière à haute énergie, c'est la théorie des champs. Et ça, on le sait, par exemple, parce qu'on a des centaines d'expériences dans les accélérateurs de particules, et on sait que la théorie des champs est quelque chose qui marche bien, marche extrêmement bien, aux hautes énergies. Donc si on veut décrire une phase d'inflation, certainement, la description qu'on doit adopter pour la matière doit être basée sur la théorie des champs. Alors il y a plusieurs candidats, pour différents champs, mais le champ le plus simple, c'est un champ qui est associé à une particule qui a un spin zéro. Alors d'abord c'est très simple, et puis ensuite c'est compatible avec le fait que l'univers primordial est homogène et isotrope. Si vous avez un champ qui contient un spin, ça veut dire en quelque sorte que chaque particule est associée à une petite flèche. Une flèche, ça vous donne une direction privilégiée. Une direction privilégiée, ça, c'est pas une situation qui est homogène et isotrope. Donc, ça ne marcherait pas. Donc, c'est tout à fait légitime de considérer un modèle très simple où la particule associée au champ n'a pas de spin, et c'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Et le champ scalaire, au début de l'histoire de l'inflation, donc quand Alan Guth a proposé le premier modèle dans les années 80, les critiques de l'inflation se plaignaient que le champ scalaire était une construction théorique qui n'avait jamais été observée en laboratoire ou en accélérateur. Heureusement, de nos jours, cette critique est tombée, puisque, comme vous le savez, comme Françoise l'a rappelé, nous avons observé le premier champ scalaire dans la nature, le boson de Higgs. Donc, ça fait du sens, et c'est tout à fait légitime de supposer que la matière va être décrite par un champ scalaire pendant sa phase primordiale. Alors, si vous prenez un champ scalaire, vous pouvez, à ce moment-là, calculer sa densité d'énergie et sa pression, exactement les quantités qui apparaissent dans cette équation. La densité d'énergie, là, c'est très naturel, vous trouvez que c'est en fait l'énergie cinétique, donc la dérivée par rapport au temps de phi, c'est sa vitesse, la vitesse au carré, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, bon, une formule tout à fait intuitive, et puis la pression, vous trouvez qu'en fait, c'est la différence entre ces deux quantités. C'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Donc, si vous voulez une pression négative, il faut que l'énergie cinétique soit sous-dominante Parce que si l'énergie cinétique est sous-dominante, ça veut dire que la pression sera à peu près moins fois le potentiel, elle sera donc négative, et on sait, d'après la relativité générale, qu'une pression négative, c'est ce qui produit une phase d'expansion accélérée, qui est par définition une phase d'inflation. Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir une énergie cinétique qui soit petite ? Eh bien, il faut simplement que le champ bouge lentement. Il faut que sa vitesse soit petite, comme ça son énergie cinétique sera petite. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir pour que le champ bouge lentement ? Eh bien, il faut que le potentiel soit plat, parce que si le potentiel est très pentu, le champ dévalera le potentiel très rapidement, l'énergie cinétique sera grande et la pression sera positive. Si le potentiel est presque plat, il bougera lentement le long de son potentiel, la pression sera négative et on aura une phase d'inflation. Donc la conclusion, c'est que si l'univers primordial est dominé par un champ scalaire dont le potentiel est extrêmement plat, alors vous pouvez générer une phase d'inflation. Et vous voyez que une autre chose qui est importante de souligner, c'est que cette équation, ici, c'est vraiment une équation qui vient de la relativité générale. Si vous essayez de dériver la même équation en physique newtonienne, vous obtenez presque la même, mais sauf vous n'avez pas la présence du terme 3P. Donc comme la densité d'énergie est toujours positive en physique newtonienne, vous ne pouvez pas générer une phase d'expansion accélérée. C'est vraiment parce qu'on fait de la relativité générale qu'on peut avoir le 3P qui se trouve être négatif dans le cadre de la théorie des champs et qu'on peut avoir cette phase d'inflation. Et ça, ça repose sur un des principes fondamentaux de la relativité générale qui est que toute forme d'énergie gravite. Toute forme d'énergie, ça veut dire la densité d'énergie mais aussi la pression. Et c'est pour ça qu'il y a un terme de pression dans cette équation. Et puis, cette hypothèse, elle est aussi intéressante parce qu'elle nous permet de faire le lien entre la physique des particules et l'astrophysique. Parce que vous voyez que si vous commencez à postuler qu'il y a un champ scalaire dans l'univers très, très primordial, et si avec des données astrophysiques, vous pouvez commencer à dire quelque chose sur ce champ scalaire, dire quelque chose à propos de la forme de son potentiel, par exemple, ça veut dire que vous êtes capable de dire quelque chose sur la physique des particules à des énergies qui peuvent être aussi grandes que l'échelle de grande unification, donc 10 puissance 15 GeV. Des échelles d'énergie qui seraient absolument impossibles d'atteindre dans un accélérateur de particules. Au CERN, on arrive à quelque chose comme 10 puissance 3 GeV au TeV, mais ça serait absolument impossible, il faudra un accélérateur gigantesque pour pouvoir atteindre les échelles d'énergie de grande unification. Donc ça veut dire qu'ici, on est en train de, en quelque sorte, de faire quelque chose d'assez fascinant, je trouve, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de faire de la physique des particules en utilisant des données astrophysiques. On utilise l'univers comme un énorme accélérateur ou comme un laboratoire. Et puis, évidemment, une des questions que ça pose, maintenant qu'on a ce lien entre la physique des particules et l'astrophysique, évidemment, une des questions que ça pose, c'est la nature physique du champ d'inflaton. On postule la présence d'un champ scalaire, mais on aimerait bien savoir ce que c'est que ce champ scalaire. Alors comme je l'ai dit, une possibilité c'est que ça soit le boson de Higgs, après tout c'est un champ scalaire qu'on a vu au laboratoire, mais ça pourrait être aussi un autre champ. On sait par exemple, quand on essaye d'écrire des extensions du modèle standard de la physique des particules, comme la supersymétrie, la supergravité, la théorie des cordes, alors il y a dans ces théories pléthore de champs scalaires et l'un d'eux pourrait jouer le rôle de l'inflaton. Donc on espère utiliser les données astrophysiques pour pouvoir discriminer par rapport à toutes ces possibilités. On aimerait savoir la nature physique de l'inflaton, mais on aimerait également savoir évidemment la forme de son potentiel. On sait qu'il doit être plat, parce qu'on veut une phase d'inflation, mais ce n'est pas suffisant. On aimerait connaître sa forme plus précisément. Évidemment, les deux questions sont liées, parce que si on connaît la forme du potentiel, peut-être ça nous donnera des indications sur la nature physique du champ qui cause l'inflation. Et puis il y a une autre question qui est parfois moins discutée mais qui est absolument cruciale pour le scénario d'inflation, c'est qu'il faut l'arrêter. Il faut arrêter l'inflation. Parce que si vous continuez l'inflation pour toujours, vous allez détruire, comme je l'ai indiqué précédemment, vous allez détruire les succès du modèle standard de cosmologie, du modèle du Big Bang Show. Par exemple, vous pourriez détruire les succès de la nucléosynthèse. Donc il faut absolument que cette phase d'inflation, à un moment, s'arrête. Et il se trouve que, en fait, dans le cadre que je discute ici, c'est assez naturel d'arrêter la phase d'inflation. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il se passe que le champ roule lentement le long de ce potentiel plat, mais le potentiel n'a aucune raison d'être plat partout. Donc si jamais le champ scalaire atteint une région du potentiel où celui-ci n'est plus exactement plat, eh bien le champ va se mettre à accélérer. Et si le champ accélère, la pression va se mettre à devenir positive et l'inflation va s'arrêter. Donc autrement dit, l'inflation va s'arrêter quand le potentiel ou quand le champ atteint une région de son potentiel où celui-ci n'est plus suffisamment plat. Et d'habitude, dans la plupart des modèles d'inflation, cela arrive au voisinage du minimum du potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le potentiel descend lentement, le champ d'inflaton descend lentement son potentiel. Il arrive à un endroit où le potentiel n'est plus assez plat, il tombe dans son minimum, il se met à accélérer, il se met à osciller, et à un moment, il va atteindre son temps de vie, et donc il va se mettre à se désintégrer. Et il va se désintégrer dans les particules du modèle standard, du modèle standard des hautes énergies, donc le modèle qu'on connaît et qu'on teste au LHC. Et puis ces particules, elles interagissent entre elles. Donc ce qui va se passer, c'est que ces particules, elles vont thermaliser l'univers, c'est-à-dire que ces particules vont acquérir un spectre thermique caractérisé par une seule quantité, qui est la température. Donc c'est la première fois, selon le scénario d'inflation, que l'univers va acquérir une température dans son histoire. C'est ce qu'on appelle la température de réchauffement, et c'est un paramètre absolument crucial du modèle d'inflation. C'est la température à laquelle on commence le modèle standard de la cosmologie, le modèle standard du Big Bang Show, par une phase dominée par la radiation. Et c'est comme ça que vous pouvez connecter de façon continue, smooth, on dirait en anglais, douce, la phase d'inflation avec le modèle standard de la cosmologie. Donc maintenant, on sait réaliser une phase d'inflation. On sait que si on a un champ scalaire dans l'univers primordial, on a une bonne chance d'avoir une phase d'expansion accélérée. Et maintenant, je vais discuter un des aspects les plus intéressants du scénario inflationnaire, à savoir l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. Parce que, comme je vais le discuter, l'inflation nous donne une hypothèse quant à l'origine des grandes structures et des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. Et cette hypothèse, elle est très intéressante. Elle est très intéressante du point de vue de physique théorique, parce qu'on va voir qu'elle est assez radicale. Et elle est aussi très importante d'un point de vue expérimental et observationnel, parce qu'on va voir que c'est cette partie du scénario inflationnaire qui nous permet de faire le lien entre les considérations théoriques et les observations astrophysiques. Alors, on sait que dans l'univers, il y a des inhomogénéités. On les voit absolument partout, les galaxies, les amas de galaxies, les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. Je ne reviens pas sur cette question, c'est aujourd'hui un fait évidemment bien établi. Et alors, face à ces anisotropies et ces inhomogénéités, deux questions se posent. Premièrement, comment croissent-elles? Et puis deuxièmement, quelle est leur source? Alors comment ces fluctuations croissent? Ça, on pense qu'on connaît bien la réponse. Et la réponse, c'est elles croissent par effondrement ou instabilité gravitationnelle. Alors l'idée est assez simple à comprendre. Si initialement on a de toutes petites fluctuations, eh bien à un moment, par chance, il y aura un endroit où il y aura des fluctuations un peu plus grandes. Donc le champ gravitationnel à cet endroit sera un peu plus grand. S'il est un peu plus grand, il va attirer un peu plus de matière autour. Ça va faire monter encore un peu plus le champ gravitationnel, donc attirer encore un peu plus de matière, et ainsi de suite. Et donc, comme ça, on va, à partir de petites fluctuations qui peuvent être, à partir de fluctuations qui peuvent être très petites, on va ainsi pouvoir produire des fluctuations beaucoup plus grandes. Et alors ça, c'est confirmé par les données astrophysiques. Par exemple, on sait que quand on regarde très tôt donc 400 000 ans après le Big Bang, on regarde la surface de dernière diffusion, donc la surface sur laquelle les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond ont été produites, on voit des petites anisotropies, mais vraiment très petites. La variation de température, c'est 10⁵. Et puis évidemment, quand on regarde l'univers aujourd'hui, on voit des inhomogénéités très très grandes. Donc c'est tout à fait naturel de penser qu'entre les deux, il y a eu effondrement gravitationnel, et de penser que les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond qu'on voit, ce sont juste les germes des galaxies, des amas de galaxies qui se sont formés pendant l'évolution de l'univers. Donc ça, on a l'impression qu'on comprend bien et que c'est bien maîtrisé. Mais évidemment, ça ne suffit pas d'avoir un bon modèle pour la croissance des perturbations, encore faut-il avoir une source. Parce que si vous avez un bon modèle pour la croissance des fluctuations, mais qu'initialement il n'y a rien, vous amplifiez rien, et à la fin vous n'avez rien. Donc il nous faut aussi un modèle pour l'origine de ces fluctuations. Alors c'est ici que l'inflation donne une réponse qui est assez intéressante. Et selon la théorie de l'inflation, donc toutes les inhomogénéités et les anisotropies du rayonnement cosmologique de fond ne sont que des fluctuations quantiques qui ont été amplifiées sur des échelles astrophysiques. Alors les fluctuations quantiques, c'est un fait physique qui est observé dans le laboratoire. Et de quelles fluctuations quantiques parlons-nous ici ? Eh bien, on parle des fluctuations quantiques du champ responsable de l'inflation, donc le champ l'inflaton, qui est un champ quantique, donc il a des fluctuations quantiques. Et puis, on parle évidemment du champ gravitationnel, qui est couplé à travers les équations d'Einstein à ce champ d'inflaton. Donc, on parle des fluctuations quantiques de la gravité et du champ d'inflaton. Et alors, quelle est l'origine physique de ces fluctuations quantiques ? C'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Parce que tous ces champs, en fait, vous pouvez les voir comme des oscillateurs. Un oscillateur, en fait, c'est un pendule. Donc, le niveau d'énergie minimal d'un pendule, c'est zéro, c'est facile à comprendre. Si vous avez un pendule, s'il est à sa position d'équilibre avec un angle zéro et immobile, vous n'avez pas d'énergie potentielle, pas d'énergie cinétique, et son énergie est zéro. Mais ça, en mécanique quantique, c'est impossible, parce qu'on a le principe d'incertitude, et on sait que le principe d'incertitude nous interdit d'avoir une valeur bien définie pour la position et la vitesse. Et donc le pendule ne peut pas se trouver à sa position d'équilibre avec une vitesse nulle, ou il ne peut pas se trouver, en fait, à n'importe quelle position avec une vitesse parfaitement définie. Et le résultat, c'est comme vous avez un compromis, vous avez toujours une vitesse et une position qui ne sont pas exactement nulles, le résultat, comme on le sait bien quand on ouvre n'importe quel livre d'introduction à la mécanique quantique, c'est que le niveau d'énergie minimale d'un pendule ou d'un oscillateur, c'est h bar oméga sur 2, où oméga, c'est la fréquence fondamentale de l'oscillateur. Et donc, ces fluctuations quantiques, elles s'appliquent au champ d'inflaton, elles s'appliquent au champ gravitationnel, et elles sont présentes en permanence, elles sont inévitables. Et ce sont ces fluctuations quantiques qui sont après amplifiées par l'inflation, pendant l'inflation, et qui donnent lieu aux grandes structures que nous voyons. Donc, en fait, l'inflation, c'est un peu comme un microscope géant. Vous avez des fluctuations quantiques que les gens mesurent en laboratoire. Par exemple, l'effet Casimir, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça, c'est une preuve de l'existence de fluctuations quantiques. Eh bien, en fait, ce que fait l'inflation, c'est qu'elle prend ces fluctuations quantiques sur de très petites échelles, et comme c'est une phase d'expansion extrêmement brutale, exponentielle, elle les étend jusqu'à des échelles astrophysiques. Donc c'est pour ça que j'ai écrit que nous sommes tous des fluctuations quantiques qui ont en fait été amplifiées par l'inflation. Donc c'est une, quand on y pense, c'est quand même une théorie assez radicale, et c'est la raison pour laquelle il est important de vérifier qu'elle est en accord avec les observations, et c'est maintenant ce que je vais discuter. Alors en fait, on peut produire deux types de fluctuations. Donc il y a les fluctuations qu'on appelle scalaires, qui sont en fait les fluctuations associées, les fluctuations quantiques associées au champ d'inflaton. C'est un champ scalaire. Donc on les appelle champs, on les appelle perturbations scalaires. Et puis, il y a les fluctuations du champ gravitationnel lui-même, qui est toujours présent, et qu'on appelle les perturbations tensorielles ou les ondes gravitationnelles primordiales. Donc évidemment, ces ondes gravitationnelles n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles qui ont été détectées récemment. Ce sont des ondes gravitationnelles dont la source est quantique, comme je l'ai expliqué, et qui ont été émises dans l'univers très primordial. Donc on a ces deux types de perturbations. Et maintenant, avant de discuter les prédictions plus en détail de l'inflation, je voudrais faire la remarque suivante. Ces fluctuations quantiques, comme je l'ai dit déjà, elles sont amplifiées par la phase d'inflation. Et en fait, au départ, elles sont placées dans le vide quantique, et vous pouvez montrer que ces fluctuations, à la fin de l'inflation, elles sont placées dans un état quantique qui n'est plus le vide, simplement parce que vous avez produit des particules pendant la phase d'inflation. Elles sont placées dans un état quantique qui est donné par cette formule. Bon, alors je me suis un peu amusé en mettant une formule compliquée, mais le message que je voulais faire passer est le suivant. L'état quantique dans lequel les perturbations sont placées à la fin de l'inflation est un état qu'on appelle un état comprimé, squeezed state en anglais. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que cet état quantique, il est très connu des gens qui font de la physique en laboratoire, notamment des gens qui font de l'optique quantique. C'est un état quantique qui est étudié de façon routinière dans les laboratoires. Il se trouve que l'état des perturbations à la fin de l'inflation, c'est exactement le même état quantique que les gens étudient dans des domaines totalement différents de la physique. Et il y a même quelque chose d'encore plus amusant, c'est que vous savez peut-être que le corps noir, le spectre thermique du corps noir, est le corps noir le plus précis qu'on ait jamais trouvé dans la nature. Alors ici, j'ai représenté le spectre du corps noir comme le satellite américain Kobe l'a mesuré, puis donc les points de données sont les petits points rouges, et puis le spectre théorique, c'est la courbe verte. Alors en fait, les barres d'erreur ici ont été multipliées par 400, parce que sinon elles seraient tellement petites qu'elles seraient plus petites que la largeur du trait. Et en fait, ça, c'est vraiment le corps noir le plus précis jamais trouvé, c'est-à-dire que même en laboratoire, on ne serait pas capable, avec la technologie actuelle, d'en produire un aussi précis que ça. Eh bien, c'est la même chose pour l'état comprimé. Vous avez une espèce de compétition dans le monde, notamment des gens qui font de l'optique quantique, et qui est de savoir celui qui va trouver l'état le plus comprimé possible. Et technologiquement, c'est extrêmement difficile. En fait, l'état le plus comprimé qui n'ait jamais été produit dans la nature, c'est l'état quantique des fluctuations à la fin de l'inflation. Et il est beaucoup, beaucoup plus comprimé que ce que les gens sont capables de faire avec la technologie actuelle en laboratoire. Donc vraiment, quand on fait de la cosmologie et quand on étudie la théorie de l'inflation, on tombe vraiment sur des situations à la fois extrêmes et très intéressantes. Alors maintenant, venons-en aux prédictions de la théorie de l'inflation. Donc, quand on observe les fluctuations du rayonnement cosmologique de fond, on a affaire, en fait, à deux effets. On a affaire aux fluctuations qui ont été produites pendant l'inflation, mais évidemment, ces fluctuations, une fois que l'inflation s'est arrêtée, elles ont continué d'évoluer, et elles ont évolué jusqu'à ce que nous, on les détecte. Donc, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est la combinaison de ce qui a été produit pendant l'inflation et puis de l'évolution qui s'est produite après. Heureusement, comme on connaît bien le modèle du Big Bang chaud, on pense qu'on connaît bien l'évolution des perturbations pendant la phase du Big Bang chaud, et donc en quelque sorte on peut retirer cet effet et à partir des observations avoir directement accès aux fluctuations, aux propriétés des fluctuations produites pendant l'inflation. Alors, comment on va faire pour caractériser ces fluctuations? On va faire comme on fait toujours en physique, on va calculer leur fonction de corrélation. Et on va commencer par calculer la fonction de corrélation la plus simple, c'est-à-dire la fonction de corrélation à deux points. Et on va le faire dans l'espace de Fourier, c'est-à-dire on va calculer le spectre de puissance. Donc l'idée, c'est exactement la même chose que quand on analyse de la lumière. On va essayer de produire un diagramme qui va nous dire quelle quantité de signal on a en fonction de la longueur d'onde de la perturbation. A-t-on plus de rouge, a-t-on plus de bleu? C'est ce qu'on appelle le spectre, qui nous donne donc puissance du signal en fonction du nombre d'ondes, c'est-à-dire, si vous voulez, de l'inverse de la longueur d'onde du signal considéré. Alors, la théorie de l'inflation, en tout cas dans sa version la plus simple, fait une prédiction bien précise pour le spectre des fluctuations primordiales. Et la prédiction de la théorie de l'inflation, c'est que le spectre doit être une loi de puissance. Donc ça veut dire une certaine amplitude, A, fois le nombre d'ondes à une certaine puissance. Donc A est l'amplitude et la puissance ici, N, on appelle ça l'indice spectral. Alors ça veut dire que si je prends le logarithme de cette équation, j'obtiens que le log de P en fonction du log de K doit être une droite, dont la pente est donnée par la quantité N. Alors, il faut que je vous dise que historiquement, la situation où N est égal à 0, c'est-à-dire où le spectre ne dépend pas de l'échelle, avait été considérée bien avant l'invention de la théorie de l'inflation. Ça portait même un nom, ça s'appelait le spectre de Harrison-Zeldovich. Et c'est ce qu'on appelle aussi de façon technique l'invariance d'échelle, parce que le spectre ne dépend pas de l'échelle, ne dépend pas de la longueur d'onde. Et ça avait été considéré par les gens bien avant, en fait, la théorie de l'inflation. Mais ce que vous voyez ici, et c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est qu'en fait, la théorie de l'inflation prédit quelque chose de différent, ne prédit pas exactement le spectre invariant d'échelle, et ça, c'est un point extrêmement important. Donc, en gros, l'inflation prédit à la fois l'amplitude et la pente. Et qu'est-ce que nous dit la théorie de l'inflation ? Elle nous dit que pour les perturbations scalaires, donc pour les fluctuations du champ d'un flaton, la pente du spectre est en fait contrôlée par la dérivée du potentiel. Donc on remarque tout de suite quelque chose, c'est que comme on sait que le potentiel doit être plat, ou presque plat, ça veut dire que sa dérivée doit être petite. Donc si sa dérivée est petite, ça veut dire que ce nombre n doit être proche de 0. Mais pas 0, si le potentiel était exactement plat, le champ ne pourrait pas bouger. Donc, la prédiction de l'inflation, c'est que vous devez être proche de 0, donc proche de l'invariance d'échelle, mais vous ne devez pas être exactement à 0. Vous devez avoir une légère déviation à l'invariance d'échelle, et si vous êtes capable de mesurer cette légère déviation à l'invariance d'échelle, vous dites quelque chose sur la forme du potentiel. Parce que si vous mesurez la pente du spectre, vous dites quelque chose sur la dérivée première et seconde du potentiel, et donc vous dites quelque chose sur V de phi. Donc ça, c'est très intéressant, ça veut dire qu'avec des observations astrophysiques, on peut dire quelque chose sur la forme du potentiel à des échelles d'énergie absolument incroyables. Et puis, l'inflation prédit également la puissance du signal ou l'amplitude des fluctuations. Et en gros, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que pour les perturbations scalaires, l'amplitude, c'est le taux d'expansion pendant l'inflation, h au carré, mesuré en unité de Planck, divisé par la dérivée du potentiel. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas accès directement à l'échelle d'énergie de l'inflation, qui serait la valeur de H, parce qu'il y a la présence de la dérivée du potentiel ici, et on ne connaît pas le potentiel de l'inflaton. Et donc, pour les ondes gravitationnelles, vous avez quelque chose de très similaire. Vous avez aussi une loi de puissance, et vous avez aussi ça veut dire qu'en diagramme logarithmique, vous avez une droite, et vous avez simplement deux différences. La pente n'est contrôlée que par la dérivée première du potentiel, et non pas la dérivée première et la dérivée seconde. Et puis l'amplitude des fluctuations est directement proportionnelle au taux d'expansion pendant l'inflation. Et c'est pour ça que les gens étaient si excités pendant l'affaire Bicep 2. Parce que pendant l'affaire Bicep 2, donc c'était une affirmation de détection de l'amplitude des ondes gravitationnelles. Si vous détectez les ondes gravitationnelles, leur amplitude, vous mesurez directement le taux d'expansion pendant la phase d'inflation. C'est-à-dire que vous mesurez l'échelle d'énergie de l'inflation. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Malheureusement, comme vous le savez, les données BICEP2 se sont révélées être dues à la poussière et non pas aux ondes gravitationnelles primordiales. Mais il n'en reste pas moins que détecter les ondes gravitationnelles reste un objectif majeur en cosmologie de nos jours. Alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même calculer le rapport pour savoir quelle est l'importance relative des ondes gravitationnelles et des ondes scalaires. Vous pouvez calculer leur rapport. Donc vous prenez simplement l'amplitude des deux, et puis vous voyez qu'en fait, l'amplitude en fait, c'est pratiquement la même. Il y a juste le fait qu'il y ait la dérivée du potentiel qui fait la différence entre les deux. Donc quand vous prenez le rapport des deux, ben, vous trouvez quelque chose qui est proportionnel au rapport de la dérivée du potentiel sur le potentiel lui-même. Et ça, on sait que c'est une quantité qui est petite, puisque c'est la dérivée du potentiel et que le potentiel doit être plat. Donc ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que T, il est petit devant S. Et donc ça nous dit que les ondes gravitationnelles, leur contribution, elle est sous-dominante quand on regarde les anisotropies du rayonnement de fond par rapport à celles des scalaires. Et donc, quand on regarde les anisotropies du rayonnement de fond, on voit principalement des ondes scalaires. Et c'est pour ça que c'est si difficile de mesurer les perturbations tensorielles. Si difficile, mais aussi si intéressant. Alors, donc maintenant que je vous ai expliqué les prédictions de la théorie de l'inflation, on va essayer de les comparer aux données récentes du satellite Planck. Je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps il me reste. Il me reste un quart d'heure, c'est parfait. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'inflation est parfaitement compatible avec toutes les données astrophysiques que nous avons aujourd'hui. D'abord, on sait qu'après les données du satellite Planck, on sait que l'univers est spatialement plat. Et ça, évidemment, c'est complètement compatible avec l'idée d'inflation, puisqu'en quelque sorte, l'inflation est faite pour ça. On sait aussi que les fluctuations ont une phase cohérente. Alors ça, c'est un peu plus dur à expliquer, donc je ne vais pas l'expliquer en détail, mais en gros, la présence de ces pics dans le spectre de puissance des fluctuations du rayonnement de fond est une trace de cette propriété. Donc le fait qu'on voit ces pics, ça, c'est vraiment complètement compatible avec une phase d'inflation. Et puis, il y a une autre chose qu'on sait, c'est comme Françoise l'a discuté avant moi d'ailleurs, c'est que en fait, les données sont parfaitement compatibles avec les modèles les plus simples d'inflation. Et ça, on le sait, parce que les perturbations, par exemple, sont gaussiennes. Il y a des modèles plus compliqués, par exemple, où vous avez plusieurs champs, ou alors où la forme du terme cinétique est plus compliquée, et ces modèles, ils ont tendance à produire des fluctuations qui ont une statistique qui est hautement non gaussienne. Et ce n'est pas ce qu'on observe, donc ces modèles, ils sont défavorisés. Et puis donc, on sait que le spectre de puissance a la forme d'une loi de puissance. Alors ça, c'est évidemment peut-être l'aspect le plus incroyable de l'inflation, c'est-à-dire c'est une prédiction de l'inflation, c'est pas une post-diction. Hein, l'inflation a vraiment prédit que le spectre devait être légèrement devait avoir une légère pente. Elle l'a prédit avant qu'on l'observe. Donc ça, c'est vraiment une prédiction. Donc ça. Quand on a une prédiction et qu'elle est confirmée par l'observation, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Et la prédiction est venue, alors il y avait des indices déjà depuis longtemps, mais enfin la prédiction est venue avec les données de Planck, parce que c'est la première fois que de façon statistiquement significative, on a pu mesurer la déviation, la pente du spectre, la déviation au spectre de Harrison-Zeldovich. Et puis bien sûr aussi, une prédiction absolument cruciale de l'inflation, c'est qu'il doit y avoir un fond d'onde gravitationnelle. Et donc, malgré BICEP2, on n'a pas encore détecté ce fond d'onde gravitationnelle. J'en parlerai un petit peu à la fin. Donc, essayons maintenant de voir ce qu'on peut déduire des données de Planck. Alors ici, j'ai rappelé quelle était la prédiction de l'inflation, enfin des modèles les plus simples d'inflation pour le spectre de puissance. Donc, une pente qui est contrôlée par les dérivées du potentiel, une amplitude qui est donnée par cette expression. Alors on connaît l'amplitude des fluctuations, parce qu'on sait que delta t sur t, c'est 10-5. Et qu'est-ce que c'est que la fonction de corrélation à deux points? Ben ça revient à multiplier deux fois les fluctuations. Donc vous prenez 10-5 au carré, ça vous donne l'ordre de grandeur du signal, et ça, ça doit être égal à l'amplitude prédite par l'inflation. Maintenant, je prends cette équation, ça me donne h carré sur la masse de Planck au carré, c'est ce terme, et puis le v sur v phi, je le mets de l'autre côté. Donc je mets masse de Planck au carré de ce côté-là de l'équation, v phi il monte au numérateur, et v il descend au dénominateur. Donc j'obtiens ça. J'obtiens que le taux d'expansion pendant l'inflation au carré, c'est cette quantité fois 10-5 au carré. Mais cette quantité, je sais qu'elle est petite, elle est plus petite que 1, parce que c'est ça l'inflation, c'est que le potentiel doit être plat. Donc je sais que h carré sur masse de Planck au carré doit être plus petit que 10-5 au carré, c'est-à-dire h sur la masse de Planck, ça doit être plus petit que 10-5. Or la masse de Planck, c'est 10 puissance 19 GeV, donc ça vous dit immédiatement que h, c'est plus petit que 10 puissance 16 ou 15 GeV, si vous prenez en compte les facteurs 1. Donc ça vous dit immédiatement que l'inflation a eu lieu à une échelle plus petite que l'échelle de grande unification. Donc vous voyez exactement d'où vient ce chiffre que j'ai montré dans un des premiers transparents que je vous ai montré. Ça vient simplement du fait qu'on connaît l'amplitude des fluctuations. Et puis une autre, donc comme je disais, une autre prédiction spectaculaire de l'inflation qui a été confirmée, c'est donc la pente du spectre, comme vous le savez. Planck a maintenant mesuré cette pente, et donc on a besoin d'un... C'est un événement vraiment très important, parce que ça veut dire qu'on a maintenant besoin d'un nouveau nombre pour décrire toutes les données astrophysiques qu'on a. On ne peut pas ignorer la pente, et la pente du spectre, c'est 0,96. Donc ça, ce sont les résultats de Planck pour les perturbations scalaires. Qu'en est-il des ondes gravitationnelles ? Eh bien, comme vous le savez, donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous n'avons pas de détection pour l'instant, malheureusement. La seule chose que nous avons, c'est une borne supérieure. On sait qu'il y a à peu près, disons, grosso modo, moins de 10% d'ondes gravitationnelles. Enfin, disons que les ondes gravitationnelles participent à moins de 10% aux fluctuations du rayonnement des anisotropies du rayonnement cosmologique de fond. En fait, cette borne est maintenant un peu meilleure. Si vous combinez les nouvelles données de BICEP avec Planck, vous obtenez quelque chose comme 0,08. Mais disons que l'ordre de grandeur n'est pour l'instant pas changé. Donc maintenant, on a vu qu'on a deux quantités qui caractérisent les données. C'est R, qui est le rapport T sur S, donc le rapport, l'amplitude relative des tenseurs au scalaire. Et puis on a la pente NS du spectre des scalaires. Donc ça veut dire qu'en fait on peut se placer dans un espace où je mets R en ordonnée et NS en abscisse, et puis essayer de voir quel type de modèle à quel type de modèle on a affaire suivant l'endroit où on est dans cet espace. Alors grosso modo, on obtient la chose suivante. Si vous êtes dans la partie verte, donc pour les valeurs de NS et de R qui correspondent, on a des potentiels qui sont de ce type-là, c'est-à-dire plats à l'origine, et puis qui deviennent plus pentus pour des valeurs plus importantes du champ. Donc typiquement, par exemple, un potentiel qui serait une constante moins phi carré. Si vous êtes dans la zone rouge, alors là, vous avez typiquement affaire à un modèle parabolique, m carré, phi carré, ou quelque chose de quartique peut-être, lambda phi 4. Et si vous êtes dans la zone grise, disons, alors là vous avez affaire à un potentiel qui est un peu de cette forme-là, mais qui a une valeur à l'origine qui n'est pas nulle. Et ça serait typiquement le cas des modèles à plusieurs champs que Françoise a mentionné, qui seraient les modèles hybrides. Alors ça veut dire qu'avec les données observationnelles, maintenant, on peut tracer les contours dans le plan RNS et voir où on est aujourd'hui, ce qui nous permet de dire quelque chose sur la forme du potentiel. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a obtenu. Donc ça, c'était les contours, on ne voit pas très bien, mais c'était les contours de WMAP, qui était un satellite de la NASA qui avait déjà mesuré avec une très bonne précision les anisotropies du rayonnement de fond avant Planck. Alors ça, c'était la première publication des données. Ils ont eu une deuxième publication de données où vous aviez ces contours, 1 et 2 sigma. Et puis maintenant, on a les contours de Planck. Alors, vous voyez que les contours de Planck, contrairement aux contours de WMAP, les contours de WMAP ils s'étendaient sur les trois régions possibles, donc ça veut dire qu'on ne savait pas trop quelle était la forme du potentiel, alors que les contours de Planck, eux, ils sont uniquement dans la région verte. Donc ça veut dire que d'après Planck, eh bien, le potentiel, en gros, il doit être de cette forme-là. C'est ce qu'on appelle des potentiels à plateau, simplement parce qu'il y a un plateau ici. Donc ça, c'est ce que nous dit Planck. Et en fait, on peut faire un peu mieux, et je vais terminer l'exposé par ça. On peut essayer de caractériser de façon plus quantitative la façon dont un modèle rencontre des observations. Alors, on peut tracer la façon dont un modèle rencontre des observations dans un diagramme, encore une fois, à deux dimensions, où, en ordonnée, on place une quantité qui décrit la performance d'un modèle. Donc cette quantité, elle est grande si le modèle il rencontre de bonne façon des observations, et cette quantité, elle est petite si le modèle il ne fait pas un très bon travail. Donc ça veut dire que les bons modèles, ben, ils sont ici, et les mauvais modèles, ils sont plutôt en bas, parce que si on est ici, cette quantité est grande. Et puis sur l'axe des abscisses, on peut placer une quantité qui compte le nombre de paramètres contraints par Planck. Parce que si vous imaginez que si vous avez deux modèles d'inflation qui rendent compte des données de façon satisfaisante, donc ils ont la même valeur, ils sont au même endroit le long de cet axe ici. Mais il y a un modèle d'inflation qui a deux paramètres et l'autre modèle d'inflation qui en a 63. Il est évident que le premier modèle est meilleur. Donc on voudrait que le nombre de paramètres... alors je suis désolé parce qu'ici il y a un petit bug, c'est le nombre de paramètres non contraints par Planck. Donc on voudrait que le nombre de paramètres non contraints par Planck soit zéro, autrement dit que tous les paramètres du modèle soient contraints par les données. Donc ça veut dire que un excellent modèle devrait être ici, c'est-à-dire qu'il est haut dans le diagramme parce qu'il a de très bonnes performances et il n'y a aucun paramètre qui n'est pas contraint par les données. Tous les paramètres de ce modèle sont contraints par les données. On n'a pas 63 paramètres non contraints qui nous permettent de fitter tout ce qu'on veut. Alors, on peut étudier donc dans ce diagramme la performance de tous les modèles d'inflation qui ont été proposés depuis 1981, en tout cas tous les modèles d'inflation dans la catégorie modèle simple, ceux qui sont favorisés par les données. Ça fait à peu près 200 modèles. Alors, voilà ce que vous obtenez. Donc là, c'est la quantité qui caractérise la performance d'un modèle, nombre de paramètres non contraints. Vous avez ici quelque chose comme 200 modèles d'inflation. Alors, ils sont tous un peu concentrés là. Donc, en fait, ici, ce diagramme, c'est juste un zoom de cette région. Et puis, ce diagramme, c'est juste un zoom de la meilleure région ici. Et puis, finalement, le diagramme ici, c'est un zoom de la meilleure région ici. Donc en fait, quand je regarde ce qui se passe ici, qu'est-ce que je dois faire pour trouver le meilleur modèle? Ben, je dois prendre un modèle qui est haut dans le graphe et qui a zéro paramètre contraint. Zéro paramètre non contraint, excusez-moi. Et alors si je fais ça, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve un modèle à plateau. Et ça, c'est pas très surprenant parce que je savais déjà que j'étais dans la région verte. Mais je peux être plus précis. Et en fait, ce que je trouve, c'est aussi un modèle que Françoise a évoqué, c'est le modèle de Starobinsky. Alors, c'est un peu ironique parce que c'était le premier modèle d'inflation proposé. Ceci dit, dans les années 80, au début de l'inflation, quand même, beaucoup de gens pensaient que m carré phi carré, une simple parabole, c'était quand même le plus simple. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que Planck nous dit. Planck nous dit que m carré phi carré, ça ne marche pas bien, voire pas du tout, et que si vous voulez un bon modèle d'inflation, c'est ça que vous devez faire, un modèle avec un plateau. Donc si vous voulez un bon modèle d'inflation, il ne faut pas faire ça, il faut faire quelque chose comme ça. Et j'ai représenté ici la formule qui donne ce modèle de Starobinsky, peu importe. Et je vais terminer par un dernier transparent. et revenir à la question qu'on se posait au tout début de l'exposé, maintenant qu'on sait quelque chose à propos de la forme du potentiel d'inflaton, ça veut dire que peut-être on peut apprendre quelque chose sur la nature physique de l'inflaton. Quel est ce champ qui produit cette phase d'inflation ? Eh bien, ce qui est amusant avec les résultats de Planck, c'est que une explication possible, peut-être probable, ou en tout cas qui reste toujours d'actualité, c'est que le champ d'inflaton soit le boson de Higgs. Et en fait, si vous prenez le modèle standard de la physique des particules et que vous essayez de faire de l'inflation avec le boson de Higgs, c'est une catastrophe. Ça ne marche absolument pas. Mais si vous prenez le modèle standard de la physique des particules plus la gravité et que vous rajoutez un terme, qui est celui-là, peu importe ce que c'est, mais vous voyez, c'est H fois R. R, c'est la gravité, H, c'est le boson de Higgs. Donc, c'est un couplage entre la gravité et le boson de Higgs, qui est contrôlé par une constante qui n'a pas de dimension, qui est un pur nombre, qui est xi. Bon, peu importe les détails, mais si vous rajoutez un terme au modèle standard, eh bien là, vous trouvez, au miracle, exactement le modèle de Starobinsky. Et c'est ce que vous voyez ici. Ici, c'est le potentiel. Vous voyez ici le fameux chapeau mexicain qui conduit à la transition électrofaible. Alors ici, sur ce diagramme, elle est complètement, cette phase elle est complètement concentrée sur une petite valeur du champ. Et puis, beaucoup plus loin, des valeurs beaucoup plus grandes du champ, vous retrouvez exactement le modèle de Starobinsky. Donc peut-être, en fait, les données de Planck sont en train de nous dire quelque chose qui serait absolument spectaculaire. C'est qu'on n'a pas besoin de physique au-delà du modèle standard et qu'on peut réaliser l'inflation avec le seul champ scalaire qu'on ait jamais vu, c'est-à-dire le boson de Higgs. Alors évidemment, on ne sait pas encore. On a besoin de preuves plus importantes, mais c'est quand même une possibilité assez incroyable. Alors maintenant, je vais conclure. Donc, conclusion. Comme nous l'avons expliqué plusieurs fois, la théorie de l'inflation permet de résoudre certaines difficultés du modèle standard de la cosmologie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui remplace le modèle standard de la cosmologie, c'est quelque chose qui le fait fonctionner mieux. En plus, et ça c'est très important, ça permet d'expliquer l'origine des grandes structures observées dans notre univers. Et l'explication est absolument remarquable d'un point de vue théorique parce qu'elle combine relativité générale et physique quantique, et vous savez que c'est difficile. Et d'un point de vue observationnel, c'est en très très bon accord avec les données, et en fait en tellement bon accord avec les données qu'aujourd'hui la logique elle est renversée, c'est-à-dire on utilise les données astrophysiques pour essayer de contraindre la physique des particules. Alors il y a des questions importantes comme l'échelle d'énergie de l'inflation, la nature du champ d'inflation, la forme du potentiel qui reste certes sans réponse définitive pour l'instant, même si on a des indications. Et quelle est la suite ? Qu'est-ce qui excite la communauté des cosmologistes en ce moment ? Ben, c'est d'essayer de reproduire l'histoire de Bicep 2, mais cette fois avec une vraie détection, c'est-à-dire de détecter les ondes gravitationnelles primordiales, parce que c'est la seule prédiction absolument clé de l'inflation qui n'a pas été vérifiée. Donc vraiment, il y a dans le monde maintenant pléthore de projets observationnels et expérimentaux. Vous avez des télescopes au Chili, au pôle sud, qui essayent de mesurer cette valeur donc, de petit r, hein, le rapport tenseur sur scalaire. Vous avez des ballons qui essayent aussi de mesurer les tenseurs. Donc, l'idée, c'est qu'avec des télescopes au sol et des ballons, si r est plus grand que 10-2, disons que dans les 5 prochaines années, on le saura, on aura une détection. Si R est plus petit, là, il faut faire plus cher, il faut faire plus efficace, il faut lancer un satellite. Alors, vous avez différents projets. Donc, vous avez des projets européens, le satellite Core, qui n'est pas encore été accepté. Vous avez des projets américains, comme Pixie. Et puis, vous avez un projet japonais qui est en dernière phase de sélection, qui s'appelle Lightbird. Et ces trois projets, même s'ils ne sont pas reçus d'agrément définitif, ont pour but d'aller chasser ces ondes gravitationnelles primordiales, et leur cible, c'est un petit r de 10-4. Donc si r est plus grand que 10-4, à ce moment-là, ces satellites seront capables de détecter les ondes gravitationnelles. Et alors je termine juste par une seule réflexion, c'est que si le modèle gagnant selon Planck est vraiment le modèle de Starobinsky, c'est-à-dire en fait le modèle où le champ d'inflaton est le X, eh bien ce modèle prédit R égale 10-3. Donc ça veut dire que si c'est le cas, les futurs satellites, donc là on parle de quelque chose à une échelle de dizaines d'années ou peut-être un peu plus, 15 ans, ces satellites seront capables d'aller voir les ondes gravitationnelles si ce modèle est correct. Et de la même façon, évidemment, si les satellites ne voient pas le signal, ça permettra d'exclure cette possibilité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je m'arrête là.